Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Chers auditeurs, bonjour. Merci pour votre fidélité à Canal Académie et à nos programmes. Restez avec nous pour cette nouvelle émission d'Un jour dans l'histoire consacrée aux bâtisseurs des temps médiévaux. Je suis heureux de recevoir à ce micro Philippe Bernardi, archéologue, historien et directeur de recherche au CNRS. Philippe Bernardi, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes de passage dans la capitale et vous venez de recevoir un prix prestigieux, le prix Provins, pour votre ouvrage « Bâtir au Moyen-Âge » paru aux éditions du CNRS. Ce prix, pour ceux qui ne le savent pas, est organisé par la ville de Provins dans le Grand Est parisien. Il s'agit d'une ville classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, ceci depuis 2007, et ce prix vise à récompenser un livre accessible au public cultivé portant sur un sujet du Moyen-Âge. Alors j'ai reçu à ce micro trois lauréats du prix Provins, André Vaucher pour son travail sur Saint-François, Lidwin Scordia pour l'édition de l'extraordinaire Livre des Trois Âges, un manuscrit du XVe siècle, et donc vous, je suis heureux de vous recevoir, Philippe Bernardi. Alors, pour le commun des mortels que nous sommes, la construction au temps médiévaux, ce sont d'abord les cathédrales. Or, vous dites, certes, il ne faut pas se priver naturellement des études sur ces cathédrales, mais la construction au Moyen-Âge, ce ne sont pas seulement les cathédrales.
Oui, non, effectivement, ce qui m'a intéressé, c'était de partir un peu de ce que dit Georges Duby sur la diversité féconde, obscure qui entoure les chefs-d'œuvre, et de replacer en quelque sorte autour de ces chefs-d'œuvre tout un arrière-plan, tout un paysage qu'il me semblait important à la fois de décrire et de relier à ces chefs-d'œuvre.
Pourquoi la cathédrale a tant de succès ? Alors, elle joue un peu, j'y pense, elle joue un peu le rôle de la montagne dans l'étude de la géographie, une dictature de la montagne.
Il y a, en géographie, l'éminence.
Voilà, exactement.
Pour plusieurs raisons, je pense. D'abord parce que c'est une construction en pierre. Une construction éminente, effectivement, qui se lie très facilement dans la ville. C'est aussi le point d'orgue un peu de la construction, c'est-à-dire que c'est là qu'on va essayer d'innover le plus, qu'on va mettre au point toutes ces nouvelles techniques de taille ou d'organisation du chantier. Et puis, c'est aussi emblématiquement ce qui a été le premier centre d'intérêt des chercheurs en histoire de l'art, en archéologie, sur la construction, à savoir l'emblème de la construction de la ville et de la construction de la nation française.
On oppose souvent l'âge des cathédrales et l'âge roman. Or, semble-t-il, il s'agit d'une erreur de perception chronologique.
Oui, on peut le considérer comme ça. C'est-à-dire que la chronologie, effectivement, ce que l'on désigne comme l'âge des cathédrales, à savoir la période gothique, commence et l'art gothique commence avec Saint-Denis, et tout sauf une cathédrale, Et puis, des tas d'expériences gothiques se passent bien en dehors des cathédrales. On continue à construire des couvents après la période romane. Enfin, c'est une facilité de langage, comme ces questions d'arc brisé ou d'arc en plein cintre, qui se trouvent aussi bien dans différentes périodes et bien au-delà du gothique et du roman.
Il ne faut pas se laisser entraîner par une division chronologique un peu trop généraliste. Alors, ce qu'il y a d'étonnant, et là, on va faire... En fait, votre travail a consisté en quelque sorte à faire le point sur l'état des recherches aujourd'hui sur l'art du bâtiment au Moyen-Âge. On est assez étonné de voir que les recherches en dehors précisément des cathédrales ont été très tardives. Elles datent des années, elles commencent dans les années 70-80.
En fait, il y a eu des recherches précédemment, mais le vrai virage, me semble-t-il, pour la recherche et pour la recherche large, ça a été en France. Et il faut bien préciser cela parce que la chronologie n'est pas la même, par exemple, si on considère la Grande-Bretagne. ce sont les années 70, avec plusieurs parutions importantes, et notamment le congrès de la Société d'histoire des historiens médiévistes de l'enseignement supérieur public, excusez-moi de la longueur de la chose, qui s'est tenu à Besançon en 72 et qui a été publié, je crois, en 73 sur bâtir au Moyen-Âge, et qui a marqué vraiment l'avènement, dans le cadre historique, des recherches sur la construction vernaculaire, je ne sais pas comment on peut l'appeler, il y a plusieurs manières de la désigner, mais en tout cas quelque chose qui soit autre que la grande construction de pierre réservée la plupart du temps aux études d'histoire de l'art et non d'histoire ou d'archéologie. L'archéologie médiévale s'est développée un peu plus tardivement, enfin plus lentement dans ce domaine, mais c'est vraiment, me semble-t-il, dans les années 70 qu'il y a cette rupture.
Vos limites chronologiques, les limites chronologiques de votre ouvrage, elles s'étendent du XIIIe siècle jusqu'à...
Jusqu'au milieu du XVIe siècle. J'ai voulu intégrer dans ce travail les données qu'on peut avoir pour les premières décennies du XVIe siècle, qui sont, au moins pour la France, au moins pour certaines parties de la France, et en tout cas pour ce qui est du bâti courant, encore très largement médiéval, entre guillemets, puisque marqué du même style, des mêmes techniques. Puis, c'est vrai que marquer des chronologies en histoire des techniques, c'est toujours un peu délicat, puisque... Enfin, on n'a pas changé de manière de bâtir radicalement après 1550, mais au moins dans les styles, dans l'organisation des, ne serait-ce que de la diffusion des savoirs avec le développement de l'imprimerie, la naissance de certains traités qui ont petit à petit modifié la manière de voir et qui ont imposé certaines règles de bâtir qui n'étaient pas aussi répandues précédemment.
Ce qu'il y a d'intéressant, et vous le dites d'emblée dans votre ouvrage, c'est que toutes ces grandes constructions et ces chantiers apparaissent comme des laboratoires en quelque sorte, technologiques, c'est un terme qu'on pourrait utiliser, avant-gardistes dans les constructions, c'est-à-dire que les techniques qui sont utilisées de manière exceptionnelle au XIIIe siècle, XIVe siècle, deviendront des techniques utilisées de manière très commune dans les siècles à venir.
Oui et non. Il y a effectivement, cette idée du laboratoire me plaît beaucoup parce que je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est cette diversité féconde. Il ne faut pas voir cette période et ce milieu comme quelque chose de figé, comme reproduisant constamment les mêmes modes opératoires, mais comme une période de, j'allais dire innovation, ça n'est pas tout à fait le terme, parce que ça n'est pas que de l'innovation, c'est une forme de recherche, de perfectionnement de certaines choses, de certaines manières de faire. On crée, mais on abandonne aussi. On suit des voies, puis on rebrousse chemin parce qu'elles ne débouchent pas. C'est une période créative. C'est plus qu'innovante, créative, qui cherche. Ce ne sont pas du tout à les fréquenter, si je peux dire que je les fréquente. Les constructeurs ne sont pas figés dans une reproduction stricte. Il y a vraiment, oui, encore une fois, j'y reviens, mais Duby a bien dit les choses. Pourquoi les redire autrement, non ? Une diversité féconde.
Et qu'on ne met pas assez en avant, en tous les cas, dans le grand public. Ce qu'il y a d'intéressant dans votre ouvrage, c'est que vous vous situez à la fois sur l'histoire sociale, sur l'histoire économique, vous êtes un spécialiste d'économie médiévale, mais aussi vous êtes dans l'histoire, au fond, des techniques. Il n'est pas difficile de passer d'une discipline comme cela à une autre.
D'un point de vue académique, si. Mais... Il me semble que, précisément, je n'ai pas le sentiment de passer d'une discipline à l'autre. J'ai le sentiment simplement d'essayer de comprendre quelque chose, qui est la base de mon travail, c'est l'histoire des techniques, et d'essayer de le comprendre sous divers angles. Mais c'est toujours le même objet qui m'intéresse, c'est la construction, je dirais même c'est le constructeur. Et pour comprendre une construction, pour comprendre même une carrière de personnage, c'est comme aujourd'hui, si on ne le situe pas dans son environnement technique, il est vrai, mais aussi de manière plus incarnée dans ses liens sociaux, dans ses relations de dépendance aux commanditaires, de dépendance à ses manœuvres et autres, dans ses relations économiques. Comment comprendre un chantier si l'on n'a pas la notion du coût des matériaux, du coût des outils utilisés, mais aussi des salaires des personnages qui entrent en ligne de compte? Tout ça, pour moi, ça ne fait qu'un. C'est vraiment un seul aspect. Alors, c'est vrai que je peux apparaître comme papillonnant dans ces choses, mais il me semble vraiment, et c'était un des points forts sur lesquels je voulais insister dans cet ouvrage, c'était le fait que les choses étaient liées et que la technique, sans les hommes et sans l'économie, ne me paraît pas être une étude qui puisse se faire, parce que sans ça, vous pouvez apporter des visions très monolithiques et bien organisées, mais qui sont remises en cause par d'autres critères.
Et je confirme, hein, il y a une vraie unité dans votre ouvrage. Au fond, lisant, ce qui m'est apparu, c'est que c'est un ouvrage qui pourrait autant passionner les historiens, les étudiants, mais aussi les entrepreneurs, parce qu'il s'agit d'une véritable entreprise. On appellerait ça, alors je vais utiliser des anachronismes, mais des techniques de management. Vous parlez autant des ressources que des dépenses, que du temps de travail, etc. Ce sont des domaines qui sont extrêmement contemporains et on voit que les motivations et que les hommes se ressemblent à toutes les époques.
Oui, oui, je pense qu'il y a beaucoup de grilles d'analyse de la société actuelle qui peuvent fonctionner sur la société médiévale. Alors, comparaison n'est pas raison. En l'occurrence, effectivement, on peut utiliser ces grilles d'analyse. Moi, je trouve que ça renseigne plus, dans bien des cas, sur notre manière d'envisager notre passé. Et ça, c'est assez... Enfin, je pense que c'est un point qui est intéressant dans l'approche qu'on peut avoir de l'époque médiévale. C'est-à-dire ça, la manière dont on aborde l'époque médiévale nous renseigne plus sur ce que nous sommes nous-mêmes que sur l'époque médiévale elle-même. Après, bon, on fait avec ce que l'on a. Et effectivement, les outils actuels d'études de l'entreprise me semblent tout à fait appropriés, quitte aussi simplement à voir en quoi l'entreprise médiévale diffère de l'entreprise contemporaine. Et là, justement, c'est le domaine de l'histoire. C'est là qu'est la différence qui interroge et qui... cette étrangeté.
Alors, vous n'êtes pas, en revanche, dans le domaine des idées, c'est-à-dire que vous n'évoquez pas, par exemple, le symbolisme des cathédrales, le symbolisme de telle ou telle construction. Cependant, je souhaiterais, malgré tout, poser une question au fond qu'on ne se pose peut-être pas assez, mais... pourquoi les cathédrales? Pourquoi cette émergence, en ce 11e, 12e siècle, de ces monuments extraordinaires qui s'élèvent comme cela vers le ciel? Est-ce qu'on peut, au fond, limiter l'interprétation à la spiritualité de l'époque?
C'est une bonne question, comme on dit quand on est mal à l'aise pour apporter une réponse. J'avoue que je ne saurais pas donner de réponse approfondie pour la chose. J'essaierai de vous répondre à ça un peu, non pas par une pirouette, mais en revenant sur la discussion qu'on avait précédemment. C'est-à-dire, effectivement, il y a une spiritualité. Il y a une technique qui permet d'élever les bâtiments, de les ajourer, de faire pénétrer la lumière. Il y a une économie. C'est la richesse de certaines villes ou en tout cas de certains évêchés qui permet de construire ces bâtiments-là. Il y a une population, c'est-à-dire des techniciens qui sont réunis dans des villes et qui permettent de bâtir la chose matériellement. Pour moi, c'est un ensemble. Et vous voyez que je reviens sur mon credo. C'est un ensemble de choses qui l'a permis. Ce qui l'a suscité, ma foi, effectivement, il y a des penseurs médiévaux qui ont développé des souhaits dans le sens d'une architecture plus ajourée ou autre. Maintenant, ces souhaits sans les possibilités techniques, sans les moyens financiers.
En tous les cas, c'est le symbole d'une mutation, la mutation d'une société à de nombreux niveaux.
Oui, c'est indéniable qu'autour du XIIe siècle se passent des changements fondamentaux dans la société médiévale. Alors, d'autres personnes sont bien plus indiquées que moi pour parler de ces changements-là. Mais effectivement, on le voit dans les chantiers eux-mêmes, l'émergence de l'architecte dans le contexte du travail. Travail manuel, une forme de reconnaissance des arts mécaniques, d'ailleurs avec des fluctuations. Tout ça, ça forme une société effectivement différente de celle qui précède.
Je reçois Philippe Bernardi, auteur du livre « Bâtir au Moyen-Âge » paru chez CNRS Éditions. Nous nous retrouvons dans un tout petit instant.
La bibliopholie, c'est l'amour fou des livres de bibliophilie. Écoutez notre bibliologue Bertrand Gallimard-Flavigny, il n'hésite pas à créer quelques néologismes pour faire partager sa passion. Bibliopholise, chronique d'un bibliophile, une émission au fil des pages à télécharger dès maintenant sur Canal Académie.
Nous entamons la deuxième partie de cette émission. Je reçois Philippe Bernardi, historien, qui vient de recevoir le prix Provins 2011 pour son ouvrage « Bâtir au Moyen-Âge » paru chez CNRS Éditions. Alors nous avons évoqué ensemble, Philippe Bernardi, le cadre général de votre ouvrage. Je souhaiterais maintenant un peu rentrer dans le détail. La première chose que vous étudiez au cours d'une première partie, hein, votre livre en compte 3, le bâtiment entre industrie et artisanat, c'est cette population sur les chantiers. Or, Vous faites une distinction, en quelque sorte, entre la profession et l'occupation. Et c'est une distinction importante parce que nous, évidemment, on regarde les choses avec nos yeux du 21e siècle ou du 20e siècle et on imagine une personne qui a un métier, qui va au chantier le matin, qui repart le soir. Alors les choses sont beaucoup plus complexes que cela.
Oui, tout à fait. Enfin, c'est plus complexe.
Plus nuancé.
Oui, c'est plus nuancé. En fait, c'est plus nuancé que l'idée que l'on en a. Je dirais, au fond, je pense que si on s'interroge sur les professions, entre guillemets, des personnes qui nous entourent, on a vite fait de constater qu'il y a déjà cette différence entre occupation et profession. Ce que je voulais distinguer par là, c'était le fait que, avec la notion de profession, on a tendance à ranger les personnes dans une catégorie socio-professionnelle bien claire, bien délimitée. La notion d'occupation, que d'ailleurs j'emprunte à Alessandro Stelle, présente une plus grande souplesse, à savoir qu'on peut être occupé un temps à cela, un autre à cela, sans pour autant que les choses soient concurrentes ou soient forcément successives ou s'excluent l'une l'autre. C'est ce qui me semble être le cas pour le Moyen Âge, à savoir que les personnages auxquels j'ai pu m'intéresser n'ont pas une profession et une seule profession, mais ont une occupation. Puis, si pendant les périodes de chômage ou simplement par opportunité, peuvent se déplacer physiquement ou simplement professionnellement et avoir une autre occupation. Ça, c'est vraiment le quotidien. Je travaille beaucoup à partir des textes, des sources notariales notamment, et les personnages que je peux suivre ne sont que très très rarement monoprofessionnels en quelque sorte, si je peux me permettre de dire ça comme ça. Or, la profession, c'est une manière d'aborder l'homme médiéval qui, elle, est anachronique, me semble-t-il, et qui implique, induit certaines manières d'appréhender la société médiévale qui, même d'un point de vue aussi scientifique, j'y mets certains guillemets dans certains cas, que les approches comptables, quantitatives, induisent, disons, des... Non, j'allais dire erreur, mais ce n'est pas vraiment le cas, c'est trop fort, erreur, mais des glissements ou des interprétations un peu rapides, me semble-t-il.
Votre livre est bourré de références. Alors, vous avez des croquis, des tableaux, des photos, et précisément, vous donnez beaucoup de chiffres, qui sont des chiffres très éclairants. Là, je vois notamment les différents secteurs d'activité parmi la milice de Bruges, ou bien les principaux secteurs d'activité parmi les nouveaux bourgeois d'Amiens, Douai et Valenciennes. La population liée à la fois à la construction et au monde du bâtiment n'excède jamais les 10% des métiers.
Oui, c'est un chiffre, et encore 10%, c'est beaucoup. C'est beaucoup, parce que ce serait probablement un chiffre à relativiser, parce que les sources qu'on utilise dans ces comptages sont des sources fiscales. Alors déjà, ce sont les personnes qui ont quelque chose à payer. Et puis après, ce que je voulais montrer à travers ces chiffres, qui parfois peuvent être un peu lourds, disons, c'est le fait que ce grand nombre, dont on a fait une caractéristique en quelque sorte du monde du bâtiment, le grand nombre de personnes travaillant sur les chantiers, c'est vraiment ceux qui marquent l'industrie du bâtiment pour les historiens. Mais ce grand nombre, il peut être pour le moins relatif, c'est-à-dire que qu'est-ce que l'on compte dans les artisans du bâtiment? Est-ce que l'on compte, par exemple, les artisans du bois? Mais le bois, ça n'est pas que le bâtiment. Il y a énormément de choses en bois qui ne dépendent pas du bâtiment. Les bateaux, tout ce qui est instrument pour l'agriculture, enfin, outillage agricole, et j'en passe. De même, le verre. Le verre, il y a certains vitraux, effectivement, mais il y a aussi toute la gobeletterie et le métal. La clouterie est extrêmement importante pour le bâtiment, mais évidemment, le métal, ça ne se limite pas à ça. Donc, il y a, suivant la catégorie que l'on fait artisan du bâtiment, bien, vous voyez que les effectifs peuvent fluctuer notablement pour une même ville.
Alors, autre notion de chiffre qui est passionnante également, c'est les effectifs sur les chantiers. On va revenir sur la notion de chantier parce qu'elle est très importante. Mais là aussi, ça fluctue. Vous présentez un tableau effectif présent à Windsor au cours des 6 premières semaines du chantier débutant à la mi-février 1344. Donc, vous donnez 6 semaines. Et vous voyez que la première semaine, vous avez 36 personnes, que la deuxième, vous en avez 370, que la cinquième, vous en avez 480. La semaine d'avant, vous en aviez beaucoup plus, parce que vous aviez 70 personnes de plus. Bref, vous avez une évolution. On n'est absolument pas dans ce monde figé, puisque l'évolution, elle se fait même au gré des semaines.
Oui, oui, c'est une flexibilité qui ferait pâlir d'envie beaucoup de libéraux, mais effectivement, un chantier ne nécessite pas le même nombre de personnes suivant que l'on creuse des fondations ou que l'on maçonne un arc. Et sur les chantiers, les effectifs fluctuent en fonction de la météo, bien sûr, aussi, mais aussi du type de travail qui est demandé. C'est la naissance de la place de grève. On va chercher les personnes dont on a besoin, qui vont enfler, en quelque sorte, les effectifs premiers, qui vont les grossir ponctuellement quand on a besoin de faire quelque chose de plus spécifique. Sur le chantier du Palais des Papes d'Avignon, sur lequel j'ai pas mal travaillé, quand il s'agit de monter la pierre d'autel du palais de Clément VI, dans le milieu du XIVe siècle, eh bien on fait appel à 80 personnes qui vont tirer cette pierre d'autel des bords du Rhône jusqu'au Palais des Papes. Là, pendant un jour, on a 80 personnes qui disparaissent dans la nature, pour l'historien, bien sûr, évidemment. Ils vont s'occuper à d'autres tâches qui, peut-être, ne dépendent pas du bâtiment. Mais ces 80 personnes vont, pendant toute une journée, être consacrées à cette tâche et disparaître, encore une fois, pour nous.
Ce qu'il y a de fascinant, mais on y reviendra peut-être aussi tout à l'heure, c'est le fait qu'il y ait cette évolution semaine après semaine, jour après jour, sur des chantiers qui, parfois, durent plusieurs dizaines d'années. Il y a un contraste extraordinaire.
Oui, sur la longueur du chantier et sur les effectifs qui ponctuellement...
Oui.
Mais c'est un fait que si on veut que le chantier aille vite, et dans les chantiers qui sont donnés comme les grands chantiers urgents, là, les effectifs sont énormes.
Oui.
Parce que c'est vraiment la variable la plus nette. Quand Filarete projette de construire une ville pour les Sforza, ce qu'il met en premier, c'est les effectifs qu'il organise comme ça. Et partant de ces effectifs, il peut dire qu'en tant de jours, on va faire tant de mètres de murailles. Et sur les chantiers des fortifications, sont mis en avant par les historiens, mais déjà par les chroniqueurs de l'époque, comme ayant réuni des centaines de personnes, parce que ce sont les chantiers qui ne peuvent pas attendre.
Justement, ce fameux chantier. Alors, d'abord, vous montrez bien que le terme chantier, c'est un terme qui apparaît au XVIIe siècle, à la fin du XVIIe siècle, en 1680, dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Donc, comment évoquait-on le lieu où se trouvait et comment se présentait ce lieu où se trouvaient tous ces travailleurs?
Alors oui, ça, c'était un point qui m'a assez étonné en travaillant sur... En essayant de voir finalement quel était le vocabulaire utilisé, le fait que le terme de chantier n'est pas... Enfin, est un terme ancien, mais qui ne désigne à la base pas du tout le chantier au sens où on l'entend, c'est-à-dire le lieu clos de l'endroit où l'on travaille, où l'on bâtit, mais désigne les éléments sur lesquels on pose les pièces de bois pour les couper. Donc je me suis demandé, effectivement... Encore une fois, je reviens sur ce point-là. Ça montre la manière dont on a abordé la construction, dont les historiens ont abordé la construction depuis le 19e siècle, à savoir avec je ne dis pas que j'en suis dénué, mais un certain nombre d'a priori et d'assimilations, de similitudes poussées dans ce sens. Le chantier, à l'époque médiévale, n'est pas nécessairement un lieu clos. On peut avoir, je pense que c'est, je crois que j'utilise cette image-là, mais pour moi c'est ça, c'est une mosaïque de lieux. C'est-à-dire que le chantier n'a pas une unité spatiale. On taille la pierre à un endroit, on fabrique les charpentes à un autre, on communique, reprenons la cathédrale. Quand on construit une cathédrale, l'espace autour de cette cathédrale est loti, est habité. Il y a des maisons, on détruit parfois progressivement. Au XIIIe siècle, il y a déjà une église sur place dans bien des cas. Donc on ne détruit pas totalement cette église, on la remplace petit à petit. Il y a un problème de place, d'espace pour bâtir. Et donc on externalise, si je peux me permettre ce terme, on externalise un certain nombre de choses. Ou alors on utilise les lieux présents à d'autres fonctions. On va utiliser une sacristie comme salle de rangement pour l'outillage. On va utiliser une maison pour y tracer toutes les épures qui vont servir à tailler les pierres. Donc c'est un ensemble de lieux comme ça. Alors là, je suis peut-être en train de construire une image un peu trop rigide aussi, parce que dans certains cas, on avait l'espace et effectivement, on pouvait regrouper les choses. Mais par exemple, la carrière est très rarement sur place. Il faut imaginer que la carrière peut se trouver à quelques kilomètres. Donc, imaginez un charroi qui va, ou alors une navigation qui va permettre d'aller de la carrière. La carrière apparaît elle-même comme un premier chantier. Il y a ce transport. Sur place, on va aménager un endroit qu'on désigne souvent comme sous le nom de loge pour tailler les pierres, finir de tailler les pierres. Ensuite, il va falloir les transporter à pied d'œuvre, les monter. C'est tout un ensemble de lieux, un chantier. Ce n'est pas une chose bien close. Pour revenir au Palais des Papes, effectivement, on mettait des barrières de temps en temps aussi pour limiter, mais précisément parce que le chantier s'implante dans un lieu habité et pas ex nihilo, pas dans un endroit dégagé comme on aimerait bien que ça le soit parfois.
Alors, il y a un endroit du chantier sur lequel vous arrêtez qui est vraiment spécifique. Nos auditeurs vont le voir. Ce sont les fameuses loges qui donneront plus tard toute la mythologie autour de la franc-maçonnerie, etc. Qu'est-ce qu'une loge au XIIIe siècle ?
Une loge, c'est un endroit où l'on taille la pierre. Disons, c'est les premières loges, semble-t-il, telles qu'elles nous apparaissent, sont des lieux abrités où l'on peut tailler la pierre toute l'année, en quelque sorte. Mais la loge, c'est bien plus que ça. C'est aussi, pour ce que l'on en connaît, en tout cas pour les époques postérieures, l'évolution peut connaître ce lieu. C'est un endroit où on va remiser les outils, où on va remiser les dessins, où on va peut-être prendre un peu de repos. C'est un lieu de sociabilité, probablement. Alors, on a peu d'écrits sur ces loges, parce qu'on a quelques constructions qui sont décrites, mais la vie dans ces loges ne nous apparaît pas dans les textes. Vous imaginez bien que les sources médiévales n'ont pas beaucoup donné la parole à l'ouvrier dans sa loge.
Oui.
Donc, ce sont des bâtiments qui, parfois, sont assez importants.
Donc, il ne faut pas surestimer, en quelque sorte, le pouvoir des loges au sein de ces chantiers.
Le pouvoir des loges. Alors, on envisage souvent la loge médiévale, la loge du chantier, en la comparant à ce que vont donner les règlements des loges d'Allemagne, mais qui sont, pour ce que l'on en sait, du XVe siècle, donc déjà sur la fin des constructions de l'époque dite des cathédrales. Le pouvoir de ces loges, même par exemple pour ces loges allemandes, germaniques disons, se limite à certains types de chantiers. Ça n'est pas du tout une mise en coupe réglée de toute la construction ou de toute la maçonnerie, fût-elle franche.
C'est un... Franche, c'est-à-dire en fait libre.
Libre, oui.
Libre.
Libre, mais l'évolution même, enfin la naissance même du terme de franc-maçonnerie, du franc-maçon, du maçon, est assez difficile à dégager parce qu'on parle de maçon de franche pierre, c'est-à-dire d'un type de pierre particulier. Je pense que la franc-maçonnerie spéculative, donc celle que nous connaissons actuellement, a plongé ses racines dans certains rites ou certaines pratiques médiévales. Mais de là à dire qu'il y a un lien direct entre les deux, je pense que c'est peut-être un peu rapide.
Je me lance dans les aspects un peu plus économiques. Vous y accordez beaucoup de pages, là encore très passionnantes. On s'aperçoit que les salaires constituent la plus grosse partie, en quelque sorte, des dépenses. Mais avant de voir cet aspect, on a souvent dit qu'en quelque sorte, les cathédrales avaient paradoxalement ralenti les économies médiévales. C'est une idée aujourd'hui qui a été largement mise à mal.
Oui, c'est une polémique qui est née, je crois, dans les années 70, enfin, en tout cas, qui a atteint un point important dans les années 70 avec les travaux de M. Lopez, un article évoquant le fait que la cathédrale aurait tué la ville. La question est plus complexe, parce qu'effectivement, beaucoup d'argent a été englouti, pétrifié, disait-on, dans ces polémiques, dans le bâti. Mais en réalité, c'est tout un secteur de l'économie qui fonctionne autour de ces constructions. On achète des pierres, on les vend. Il ne faut pas envisager la construction comme un lieu clos, comme un milieu clos, comme on le voit bien souvent, c'est-à-dire où l'Église transformerait son or en pierre. L'or, il circule, même si effectivement, on immobilise en quelque sorte du capital dans la pierre. Mais qui immobilise le capital ? C'est l'Église, ça n'est pas la ville. Dans bien des cas, contrairement à ce qu'on a pu penser, et ça Jean-Louis Biget l'a bien montré, ça n'est pas la ville qui mobilise, c'est-à-dire ce n'est pas les instances, les autorités communales qui construisent la cathédrale. Ce sont les ecclésiastiques et qui payent des salaires, achètent des denrées. Et ça fait vivre énormément de monde parce qu'autour de ces personnages, c'est tout un secteur extrêmement actif, extrêmement... Il y a beaucoup d'entrepreneurs. Ce ne sont pas l'image que l'on peut en avoir de ces personnes vouées à une cause et qui vont travailler pour la gloire de Dieu. Non, ce sont des petits entrepreneurs qui ont leurs petites entreprises avec 2-3 ouvriers, parfois plus, et qui vont construire une grue, monter un mur, etc. C'est ça la réalité du chantier, ce n'est pas une pétrification aussi nette.
Qu'est-ce qui permettait, j'allais dire, ces chantiers démesurés, d'ailleurs c'est un terme que vous utilisez, hein, qui caractérise le chantier, c'est aussi la démesure. D'où venait l'argent qui permettait de payer les salaires, de payer les menuisiers, les serruriers, les matériaux, etc.
Alors l'argent, grande question, ça dépend du type de chantier qu'on envisage. Si on parle de chantier de cathédrale, pour rester sur cet aspect-là, on se rend compte, par exemple, pour la cathédrale de Florence, en Italie, c'est beaucoup l'argent de la vente des bois qui permet d'alimenter le chantier. Pour certaines églises, où on va avoir des taxes particulières qui vont être levées, des gabelles sur tel ou tel produit. Pour les chantiers de fortification, ben, ce sont parfois des impôts particuliers. Ce peut être dans l'urgence simplement une des formes de réquisition, c'est-à-dire à tout le monde y participant à hauteur de ce qu'il peut, y compris physiquement. Pour des bourgeois, eh bien, ça va être leur fortune personnelle. Je travaillais il y a peu de temps sur les constructions d'Attigny, le marchand de Prato. Eh bien, ça, c'est la fortune qu'il se fait avec son commerce méditerranéen qui lui permet de construire le plus beau des palais, dit-il.
Vous êtes à l'écoute de Canal Academy et je reçois Philippe Bernardi, auteur du livre « Bâtir au Moyen-Âge » paru chez CNRS Éditions. Nous nous retrouvons après cette toute dernière pause. À tout de suite. Nous entamons la dernière partie de cette émission, une émission consacrée aux bâtiments au Moyen-Âge. Nous fêtons cette année le 8e centenaire de Notre-Dame de Reims et je me suis dit que c'était l'occasion pour aborder ce sujet. Je reçois Philippe Bernardi, auteur du livre « Bâtir au Moyen-Âge » paru chez CNRS Éditions. Alors nous avons évoqué l'aspect économique des choses, Philippe Bernardi, ses différents ouvriers. Je voudrais m'arrêter sur les outils. L'outillage est très important. Est-ce qu'on peut dire que l'outillage lourd, parce qu'encore une fois, il s'agit de chantiers très importants, démesurés, avec des bâtiments s'élevant à plusieurs dizaines de mètres, est-ce que ces outillages lourds constituent, les grues, constituent des outils révolutionnaires à l'époque ?
Révolutionnaires, pas exactement, dans la mesure où certaines grues étaient déjà utilisées par les Romains, mais marquants. Tout au moins. Et le fait d'utiliser ces engins, on le voit bien dans les miniatures, est une forme de caractériser le chantier de construction et de construction de cathédrale essentiellement, comme un lieu de développement de la technologie. C'est en quelque sorte le point de démonstration d'un savoir-faire et d'une connaissance technique. Et la grue le symbolise bien, puisque c'est un engin coûteux, extrêmement coûteux pour chaque bâtiment, qui nécessite une capacité technique très particulière. Ce ne sont pas les ouvriers du chantier qui montent les grues, mais des personnes spécialisées, des charpentiers spécialisés qui vont se faire une renommée sur ces constructions-là, passer, comme d'autres, de chantier en chantier pour cette compétence particulière. Et donc, oui, ça a un côté, si vous voulez, sous cet angle-là, un côté révolutionnaire, mais précisément par la démesure que ça peut démontrer, parce que la grue n'a pas lieu d'être sur la plupart des chantiers. Elle va être justement ce qui ne peut se faire à dos d'homme ou simplement par la force des bras ou quelques poulies.
Quand je vous écoute, vous parlez de ces menuisiers qui ont une véritable technique et une réputation. Or, vous distinguez très nettement les dirigeants des maîtres d'œuvre qui correspondent aux ouvriers, mais il n'y a pas... Alors, je ne voudrais pas tomber dans une phraséologie marxiste, mais d'abord, est-ce qu'il y a ce rapport dominé ou dominant ? Premièrement. Deuxièmement, on le voit bien, ces menuisiers dont vous parlez sont des maîtres d'œuvre, des maîtres d'ouvrage. Ils peuvent être considérés comme tels, comme des ouvriers lambda, mais ayant leur propre spécificité et leur propre technicité et spécialisation dans ce chantier.
Vous avez abordé plusieurs questions dans votre question. D'abord, un petit point sur les termes. Le maître d'ouvrage, c'est le commanditaire. Donc, maître d'ouvrage, non, ils ne le sont pas. Maître d'œuvre, effectivement, ils le sont.
Il y a une distinction entre maître d'ouvrage et maître d'œuvre.
Voilà, le maître d'œuvre, c'est celui... En gros, c'est, dans bien des cas, on a assimilé le maître d'œuvre à l'architecte.
C'est
trop rapide.
Oui,
voilà.
Oui.
Mais ils sont maîtres d'une œuvre. Et ils peuvent être même désignés dans les textes comme le maître de la grue. C'est-à-dire la personne qui va avoir en charge la construction de la grue, du début jusqu'à la fin. C'est celui qui va commander les bois qui lui sont nécessaires pour... y compris quand il s'agit de les commander avec l'argent du commanditaire, du maître d'ouvrage, et qui va réaliser cette œuvre, qui va être limitée là dans ce cas à une grue, et va payer les salaires, embaucher les personnes dont il a besoin, etc. etc. De manière générale, je pense qu'il y a effectivement sur les chantiers des grosses différences hiérarchiques. De toute façon, on ne peut pas, me semble-t-il, construire une œuvre comme une cathédrale ou un château, enfin une œuvre de quelconque importance, sans un minimum d'organisation. À partir du moment où il y a organisation, il y a une forme de répartition des tâches, et notamment entre les personnes qui dirigent le chantier et celles qui l'exécutent. Alors, on peut discuter sur le caractère d'exécutant de certains dirigeants, ça peut se voir, mais... En tout cas, il y a une hiérarchie. Moi, je le verrais dans bien des cas et dans la construction la plus courante, alors exception faite de certains grands chantiers de cathédrales notamment, j'y reviens comme une série de petites entreprises avec un patron, des employés qui sont plus ou moins qualifiés, et puis aussi une armée de main-d'œuvre non qualifiée qui va être là, qui va être celle justement qui fluctue le plus souvent sur les chantiers, mais qui va être, disons, l'armée un peu délaissée pour compte de ce genre de choses,
ouais,
qui va passer du chantier au champ.
Ouais, ouais. Donc il y a vraiment une complexité en fait de la hiérarchie, même s'il est très difficile d'établir une hiérarchie faute de source ou...
Oui, oui, oui. Bah, des hiérarchies, certains comptes de chantier montrent bien, hein, il y a une organisation très rigoureuse des choses. Chacun va avoir ses responsabilités, sa place, etc. On peut revoir des grands,
ouais.
Les comptes de grands chantiers sous cet angle-là. Maintenant... Une personne qui est, une fois, dans un cas, sous les ordres d'une autre, peut se retrouver commandant cette autre personne sur un autre chantier.
C'est ouais.
pas... Les personnes ne sont pas enfermées, pour ce qui est des ouvriers qualifiés,
ouais.
ne sont pas enfermées dans des rôles ad vitam aeternam.
Alors, le temps de travail aussi, c'est très amusant, parce qu'on a beaucoup discuté du temps de travail ces 5-6 dernières années en
oui.
France. Or, ces personnes, on voit qu'elles travaillent du matin au soir, les pauses sont réglementées, et en gros, on travaille 5 jours par semaine.
Je dirais presque 5 jours et demi, parce que bien souvent, c'est plutôt le samedi midi qu'on arrête et qu'on est payé. 5, 6 jours. La règle serait 6 jours. Le fait est qu'entre les fêtes mobiles ou pas...
Qui étaient très importantes.
Qui étaient ouais. relativement importantes, oui, oui. Et puis, les intempéries. Et ça, le bâtiment, encore aujourd'hui, est très dépendant des intempéries. Et puis aussi, il faut peut-être voir les choses. Ça, c'est la vision qu'on en a. Donc, ces réglementations sur les grands chantiers sont parfois très, très strictes, avec, effectivement, comme vous le rappelez, des temps de pause bien précis. Mais après, il faut voir au niveau individuel. C'est-à-dire qu'on a parfois, dans des comptabilités de chantier, des mentions de « un tel n'est pas venu parce qu'il devait aller voir un tel » ou « qu'il devait régler des affaires chez lui », etc., etc. Donc, le temps de travail au niveau individuel est encore peut-être autre chose. Et ça, c'est le temps vécu. Parce que, vous savez bien, dans une entreprise, on peut avoir des horaires bien particuliers, mais si chacun peut poser une demi-journée ou arriver un petit peu plus tard, du coup, la réalité du temps de travail, elle est là, elle n'est pas dans la règle.
Eh bien, merci beaucoup, Philippe Bernardi. Malheureusement, le temps court. Et alors, nous n'avons vu, hein, je le dis pour les auditeurs, que le tiers de cet ouvrage, Bâtir au Moyen-Âge, paru au CNRS Éditions. Il y a également toute la partie concernant les conditions de l'entreprise, l'organisation du travail, nous l'avons vu en partie avec les matériaux. Mais il y a toute la mythologie de la pierre, ce que vous appelez un rêve de pierre, la présentation de tous les matériaux qui étaient utilisés. Et enfin, vous décrivez dans une troisième partie l'art et la science, des premiers plans, puisqu'on commence à écrire des plans, à présenter des plans, des maquettes, des dessins, etc., jusqu'à l'érection finale des bâtiments. Donc il y a énormément de richesses dans cet ouvrage qui permet de mieux connaître cet univers complexe. Merci beaucoup, Philippe Bernardi.
Merci à vous.
Je rappelle les références de votre ouvrage, donc « Bâtir au Moyen-Âge », un ouvrage à se procurer absolument en ce 8e anniversaire de Notre-Dame de Reims et pour montrer encore une fois que ces temps médiévaux étaient bien plus riches que nous l'a laissé penser une certaine historiographie du 19e siècle. Merci beaucoup et à très bientôt pour un nouveau numéro d'Un jour dans l'Histoire.